L'Europe a-t-elle raison de fournir des armes lourdes à l'Ukraine ? Lise, a-t-on une idée déjà précise de ce qu'en pensent nos auditeurs ?
Oui, mais moi j'ai l'impression que nos auditeurs, eux, n'ont pas une idée précise de ce qu'ils en pensent. Parce que sur Insta, on est à 50-50 exactement. Sur Facebook, on est à 57% de oui pour 43% de non. Donc, quand même pas une très grande majorité. Il n'y a que sur Twitter où on a 75% de oui pour 25% de non. Alors, on va demander son avis à notre invité, Sergueï Girnov. Bonjour.
Bonjour tout le monde.
Alors, je vous représente quand même si nos auditeurs vous connaissent bien et vous adorent. Vous êtes ancien espion du KGB et auteur de plusieurs livres. Sergueï, est-ce que vous êtes étonné de ces réponses de nos auditeurs ce matin ?
Non, je suis même plutôt rassuré parce qu'on a connu des réponses beaucoup plus déconcertantes. Donc là, c'est au minimum 50-50. Après, sur Twitter, on arrive à 70. Donc c'est très très bien. Non, c'est très très bien. En fait, ma réponse c'est pas ça. C'est pas qu'il ne faut pas livrer les armes. C'est trop tard de livrer les armes lourdes à l'Ukraine. C'est ça le truc. Ça traîne trop. Il aurait fallu leur livrer les armes à partir du mois d'avril, du mois de mai.
Et alors, pourquoi, par exemple, un pays comme la France ne donne pas de chars ? Israël, on sait, parce qu'on en a souvent parlé, mais par exemple, la France, pourquoi pas ?
Plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'Europe a la trouille de la Troisième Guerre mondiale. Mais vraiment la trouille, hein. C'est quelque chose qui est marqué et donc les autorités disaient à leur opinion publique, si on aidait trop ouvertement l'Ukraine et surtout avec les armes offensives, la Russie pouvait mal interpréter ça et nous considérer nous l'Europe occidentale comme les co-belligérants, et donc c'est à ce moment-là, c'est la Troisième Guerre mondiale, y compris nucléaire. Et donc ça bloquait tout. Et les Français donc ne voulaient, d'ailleurs, c'est pas uniquement les chars, hein, les Français ne voulaient pas livrer quoi que ce soit au début. Et puis après, progressivement, lorsqu'ils ont vu que Poutine finalement ne réagissait pas comme il le disait, ou il ne réagissait pas comme il craignait, et que finalement Poutine n'était pas aussi fort que tout le monde pensait, et que les Ukrainiens étaient très très forts et très courageux, et que finalement les Ukrainiens défendaient le monde entier, à commencer par l'Europe occidentale, parce que si l'Ukraine ne résiste pas, bah, Poutine sera après en Pologne, en Pays-Baltes, et puis éventuellement même en France, hein, qui sait, ou en Belgique. Et donc, il fallait participer à ça, et donc progressivement, on est arrivé. Et puis, vous savez, des fois, c'est même des choses de jalousie qui jouent. Là, pour les chars, vous savez pourquoi ça a marché ? Parce que Zelensky est allé aux États-Unis. Il a été reçu comme un roi, mais vraiment comme un roi. Enfin, c'est la visite officielle, le discours. Vous avez suivi son discours au Congrès ?
Oui, bien sûr.
Même si c'était moi, j'ai pas dormi. C'était à 2h du matin chez nous en France. Mais je m'en souviens plus. Je crois que j'étais sur le plateau. Ah oui, c'est par Skype. J'étais sur le plateau de BFM pour le commenter jusqu'à 4h du matin. Et mais pour vous dire aussi, c'était un événement planétaire. C'était un événement planétaire. Et donc Emmanuel Macron, lorsqu'il a regardé ça, il a grincé les dents et il s'est dit. Si ça continue comme ça, bah, la France n'existera plus au niveau diplomatique, n'existera plus au niveau international. Personne ne va me demander mon avis puisque comme je donne rien, je participe à rien, donc je vais devenir un tout petit pays, un plouc, un pecno que personne ne va consulter. Et donc, du coup, il a envoyé le cornu à Kiev et il a donné les chars. Et là, on a reparlé de la France. On s'est dit « Ah, la France a donné les chars ». Même si c'était pas les chars, MX-10, c'est pas les chars, c'est les blindés.
Non, c'était des blindés légers, mais oui.
Les blindés légers.
C'était déjà une étape, on va dire.
Voilà, c'est énorme parce que c'est un blindé léger, mais qui a quand même un canon de 105 mm, donc ça peut faire très très mal sur le champ de bataille. Et puis c'est un blindé non pas défensif, parce que justement il a quasiment pas de blindage, hein, c'est juste le blindage contre les balles, mais pas contre l'artillerie. Mais c'est un blindé qui peut se déplacer jusqu'à 85 km à l'heure, donc il peut se déplacer très très vite et appuyer surtout les fantassins à pied, en fait, qui font une attaque. Voilà, et donc c'est comme ça. Et lorsque la France a donné ça, bah, les Allemands ont dit « Ah, peut-être nous aussi, on va livrer. » Et les Américains disent « Ah oui, on va leur livrer les Bradley. » Et puis maintenant, les Anglais disent « Oh, puisque c'est comme ça, puisque tout le monde donne, bah, nous, on va donner les Challenger. » Et à ces jours, après-demain, on va se réveiller, et l'Israël va donner encore un truc qu'il n'a jamais donné.
Ça, je ne sais pas, Sergueï. Mais là, en tout cas, entre-temps, il y aura aussi la Pologne et la Finlande. Et on attend quand même la décision de Paris qui, on ne sait toujours pas, sur les Charles Leclerc, et de Berlin sur les Léopards. Mais ouais. La question, ce n'est pas ça. La question, c'est qu'on a l'impression qu'on est quand même à un tournant de cette guerre en Ukraine maintenant, et qu'il y a un sentiment d'urgence comme ça des Européens qui ont peur d'une nouvelle offensive russe. C'est ce que vous ressentez, Sergueï ?
Absolument, et je l'ai ressenti même beaucoup plus fortement que beaucoup d'autres. J'ai même poussé un coup de gueule le 11 janvier, lorsque Poutine a fait le changement à la tête de la direction de cette opération spéciale. Et en France, personne n'a compris l'importance de ce qui s'est passé.
Alors, on craint une nouvelle mobilisation générale de la part de Poutine qui pourrait envoyer 500 000 hommes sur le terrain. Mais où y trouve autant de gens, Sergueï ?
C'est une question qui peut étonner. Mélise, en Russie, il y a 140 millions d'habitants. Il y a 140 millions d'habitants. Sur 140 millions d'habitants, le potentiel de réserve, c'est 25 millions. 25 millions potentiellement sont réservables et sont appelables sous les drapeaux. 25 millions. Et donc, un demi-million, c'est rien du tout. La question n'est pas s'il va trouver ces gens. La question, qu'est-ce qu'il va leur donner comme équipement parce que déjà, à la vague précédente de 300 000 qu'ils ont mobilisé après le 21 septembre, on leur disait dans leur région, là où ils étaient mobilisés, qu'ils devaient aller dans les magasins, dans les supermarchés et s'acheter leur propre équipement. S'ils voulaient être bien équipés, il fallait s'acheter leur propre équipement. Et ça pouvait coûter entre 3 et 6 000 dollars par personne. Vous imaginez, 6 000 dollars en Russie, où, je vous rappelle, le salaire minimum officiel de l'État, c'est 120 euros, le salaire officiel. Ouais. Et ils disaient au plouc qui l'appelait sous les drapeaux, achetez votre propre équipement pour 6 000 balles.
Voilà. vous avez l'air de trouver que c'est rien, 500 000 hommes, Sergueï, mais enfin quand même, ça change. Aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont quand même beaucoup moins bien chez Poutine. Avec 500 000 hommes de plus, malgré une pénurie, ça peut être dangereux tout de même, non ?
Ah, c'est pour ça, c'est ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que Poutine, en fait, il peut, en fait, il est en train d'adopter ce qu'on appelle la tactique stalinienne ou la pratique stalinienne. Ça veut dire que vous êtes mal équipé, mais vous êtes courageux et vous avez des millions sans compter. Et voilà. Si, en fait, vous savez, c'est quand moi j'étais petit, on nous disait l'Union soviétique avec fierté. L'Union soviétique a perdu 27 millions de personnes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on nous disait avec fierté ça. Mmh. Et en réalité, j'ai lu après des analystes militaires, un certain Viktor Sovorov, d'ailleurs un brillant et classique agent ex-officier de la GRU, le renseignement militaire, qui a dit « Mais s'ils appliquaient les règles occidentales de guerre, l'Union soviétique aurait perdu 5 millions au lieu de 27. S'ils ont perdu de 27, c'est qu'il n'y avait rien à foutre des gens. Ils les envoyaient. Mais c'est ça. Mais c'est ça. C'est cru, mais c'est Staline, c'est exactement ça. Il n'en avait rien à foutre. Et Poutine n'a rien à faire des gens.
Alors, Excusez-moi, Sergueï, est-ce parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je voudrais juste que vous nous expliquiez, est-ce que cet envoi justement des armes lourdes de l'Europe, ça va changer le cours de cette guerre en Ukraine ou finalement c'est juste pour se faire plaisir, pour dire que nous on fait quelque chose, mais en vrai ça va continuer comme depuis des mois?
Malheureusement, je crois que c'est plutôt la deuxième solution ou la deuxième réponse, c'est-à-dire que ça aurait pu changer le cours de la guerre si il y en avait, je ne sais pas si la France, au lieu de donner 5 à MX-10 ou 10 à MX-10, avait donné, je ne sais pas, 100. Si on donnait 400 chars tout de suite américains. Vous savez, les Américains dans les déserts au Nevada, ils ont des champs avec les vieux chars, mais qui sont beaucoup mieux que les vieux chars soviétiques. Ils ont des milliers de chars. Ils les stockent, ils ne veulent pas les donner aux Ukrainiens. Le problème, c'est la quantité. C'est plus la qualité, c'est la quantité.
Et je crois que malheureusement, on n'a pas assez pour renverser le cours de la guerre.
Malheureusement, non.
Bon, eh ben, ça va donc continuer pendant encore des mois. C'est bien triste tout ça. Merci beaucoup, Sergueï Girnov, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes ancien espion du KGB et auteur de plusieurs livres, notamment sur cette guerre en Ukraine. À très bientôt et bonne journée.